de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le réchauffement climatique peut augmenter de 1,5 degrés Celsius ». La première prière musulmane à Sainte-Sophie aura lieu le 24 juillet. Hong Kong suspend l'ouverture de l'école. L'Organisation mondiale de la santé envoie des experts en Chine pour enquêter sur l'origine du coronavirus. La France exhorte l'Israël à retirer ses plans d'annexion en Cisjordanie. Le ministère de l'Industrie a rappelé l'importance de la propriété intellectuelle pour les petites et moyennes entreprises. Le cratère Dijon est ouvert pour les touristes le samedi 11 juillet 2020. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le réchauffement climatique peut augmenter au-delà du seuil, comme l'ont averti les scientifiques. Cette condition peut être une menace au cours des 5 prochaines années. Mais la menace d'une hausse de température est encore temporaire. Comme prévu par l'Organisation météorologique mondiale, annoncée le 9 juillet, le réchauffement climatique peut atteindre 1,5 degré Celsius. Mais cette augmentation de la température ne signifie pas que le monde a dépassé un seuil d'avertissement à long terme prédéterminé. Le 10 juillet, Reuters a rapporté que l'Organisation météorologique mondiale avait publié ses dernières conclusions concernant les défis du monde à l'avenir. L'Organisation météorologique mondiale a rappelé l'importance de faire ce qui était l'objectif de l'accord de Paris en 2015. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le réchauffement de la Terre continue d'augmenter. Nous ne réussissons pas très bien à mettre en œuvre l'accord de Paris. La concentration de gaz sous l'effet de serre, en particulier la concentration de dioxyde de carbone, se poursuit encore dans l'atmosphère et c'est aussi la principale raison de ce réchauffement climatique. L'Organisation météorologique mondiale a rappelé que selon l'accord de Paris, le monde doit encore appliquer des niveaux de contrôle des émissions. Surtout pour réduire l'utilisation des énergies fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon pour les 20 prochaines années. Ceci est important pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris, il a été convenu de lutter pour le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que la première prière collective musulmane aurait lieu le 24 juillet à Sainte-Sophie à Istanbul, en Turquie,
qui a été inaugurée en tant que mosquée. Erdogan a déclaré que le statut du musée a été révoqué et le droit d'entrée serait supprimé. La porte sera toujours ouverte aux résidents locaux, aux touristes étrangers, aux musulmans et toutes les confessions. Selon le président de la Turquie, le processus de transformation de Sainte-Sophie en musée prendra 6 mois. Recep Tayyip Erdogan, cité par TASS samedi dernier, a dit que la transformation de Sainte-Sophie serait prudente dans le but de préserver le patrimoine culturel de l'humanité. Erdogan demande à tout le monde de respecter la décision du gouvernement. Le Bureau de l'éducation de Hong Kong a suspendu toutes les écoles après une flambée de cas de coronavirus avec transmission locale. La suspension de l'école sera commencée lundi demain. La flambée de cas de coronavirus a fait craindre une deuxième vague de pandémie. Jeudi dernier, Hong Kong a signalé 42 nouveaux cas, dont 34 transmissions locales. L'augmentation du nombre de cas a augmenté pendant 2 jours consécutifs. Le ministre de l'Éducation, Kevin Yeung, a déclaré que plusieurs cas concernaient des élèves et des parents. Toutes les écoles de Hong Kong ont été fermées depuis février en raison de la pandémie de COVID-19. La plupart des étudiants font des activités d'apprentissage en ligne. Pendant ce temps, la plupart des élèves des écoles internationales sont en vacances d'été. L'Organisation mondiale de la santé a envoyé 2 experts en Chine pour enquêter sur les origines d'un nouveau type de pandémie de coronavirus ou la COVID-19. Un expert en santé animale et un épidémiologiste seront à Beijing ce week-end pour apprendre comment le virus peut passer des animaux aux humains. Les scientifiques croient que le coronavirus peut provenir de chauves-souris qui sont ensuite transmises par d'autres mammifères tels que les belettes ou les pangolins avant d'être transmises aux personnes sur le marché des produits frais de la ville de Wuhan en Chine. La Chine a réprimé le commerce des espèces sauvages et fermé plusieurs marchés humides dans le but de briser la chaîne de propagation du coronavirus à l'avenir. Le président français Emmanuel Macron a exhorté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à révoquer tout projet d'annexion de la Cisjordanie et d'ailleurs a annoncé vendredi le président français dans un communiqué. Récemment, lors d'une conversation téléphonique, Macron a rappelé à Netanyahu l'engagement de la France pour la paix au Moyen-Orient et a demandé à Netanyahu de s'abstenir de prendre des mesures pour annexer les territoires palestiniens, indique le communiqué. Macron a déclaré qu'une telle décision violerait le droit international et mettrait en danger la possibilité d'une solution à 2 États et la réalisation d'une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. Le ministère de l'Industrie a rappelé l'importance de la protection de la propriété intellectuelle dans les petites et moyennes entreprises. Parce que la protection de la propriété intellectuelle pour les acteurs commerciaux est importante pour étendre son réseau marketing. La directrice générale des petites, moyennes et multiformes du ministère de l'Industrie, Gatiwi Bawaningsih, dans sa déclaration officielle de samedi, a déclaré que la propriété intellectuelle était l'un des éléments importants des accords commerciaux internationaux dont la mise en œuvre était réglementée et supervisée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En outre, l'Indonésie, en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce, a ratifié les accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle et les a mis en œuvre sous forme de lois et de règlements. La participation des entraîneurs du secteur des petites et moyennes entreprises était nécessaire pour résoudre le problème, y compris l'amélioration de la sensibilisation et la compréhension de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour les acteurs commerciaux et le grand public dans diverses activités de développement. Le parc naturel de tourisme du cratère Digen, qui est célèbre pour le phénomène du feu bleu, le samedi 11 juillet 2020 a été rouverte aux touristes. Auparavant, a été effectuée une simulation et une évaluation de l'application du protocole de santé COVID-19. Le chef de l'Agence de coordination régionale 5 de Jember, El Tahio Widodo, après avoir inauguré l'ouverture du parc naturel de tourisme du cratère d'Ijen à Banyuwangi samedi, a déclaré que selon la lettre circulaire du ministre de l'Environnement et des Forêts, la réouverture du cratère Ijen devait vraiment appliquer le protocole de santé. Il a souligné que la réouverture de la destination touristique du cratère Ijen à la frontière entre les régions de Banyuwangi et Bondowoso était toujours nécessaire pour appliquer les protocoles de santé pendant la pandémie de COVID-19. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président a demandé de ne plus importer de dispositifs médicaux et d'équipements de défense ». Le président Joko Widodo, lors d'une réunion limitée au Palais d'État à Jakarta mardi dernier, a demandé de ne pas acheter des besoins médicaux à l'étranger pour gérer la pandémie du virus Corona ou COVID-19. La raison est qu'on a pu produire dans le pays les besoins médicaux pour le traitement des pandémies Corona, comme les médicaments, les dispositifs de test de réaction en chaîne par polymérase, les dispositifs de test rapides. À noter, la réunion restreinte s'est tenue à huis clos de l'équipe des médias. Les bureaux de la presse, des médias et de l'information du secrétariat présidentiel a envoyé des communiqués de presse mercredi soir. En outre, Jokowi a déclaré que les entreprises nationales peuvent déjà produire 17 millions d'équipements de protection individuelle par mois. En fait, les besoins en épi pour gérer une pandémie corona ne sont que d'environ 4 à 5 millions d'unités. Le président a également demandé au ministre de la Défense, Prabowo Subianto, d'arrêter d'abord de dépenser à l'étranger pour l'équipement de défense. Selon lui, Prabowo devrait pouvoir donner la priorité à l'achat d'équipements de défense locaux. Par exemple, le ministre de la Défense peut acheter des équipements de défense à PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad ou PT PAL. Les dépenses d'équipements de défense doivent prendre du budget des dépenses de l'État afin de pouvoir déclencher la croissance économique antérieure. Auparavant, les importations du ministère de la Défense avaient augmenté cette année. L'Agence centrale des statistiques a noté que les importations d'armes et de munitions avaient augmenté 7384% en mars 2020 à 187,1 millions de dollars américains. Cette augmentation est due au fait qu'en plus des importations annuelles pour la défense et la sécurité nationale, il y a eu une augmentation des importations d'armes et de munitions en février 2020 de 2,5 millions de dollars américains à 184,6 millions de dollars américains sur une période d'un mois seulement. À l'occasion, Jokowi a également ordonné à son personnel d'accélérer les dépenses du gouvernement. En particulier, les ministères et les institutions qui ont des budgets importants, tels que le ministère de l'Éducation et de la Culture, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Transports, le ministère de la Défense et de la Police. Selon lui, les dépenses publiques sont devenues le principal moteur de l'économie indonésienne au troisième trimestre de cette année. Le chef de l'État espère que si la concentration des politiques de dépenses antérieures peut accélérer la croissance économique au troisième trimestre 2020, Les efforts du prochain trimestre à l'année prochaine seront plus faciles. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 juillet. On commence par le 12 juillet 1975. On a ouvert le Monument National. Le Monument National, ou populairement abrégé en MONAS ou Tugu MONAS, est un mémorial de 132 mètres qu'on a construit pour commémorer la résistance et la lutte du peuple indonésien pour saisir l'indépendance du gouvernement colonial des Indes néerlandaises. On a commencé la construction le 17 août 1961 sous les ordres du président Sukarno. On l'a ouvert au public le 12 juillet 1975. On donnait à ce pilier une couronne de flammes recouverte d'or qui symbolisait l'esprit d'une lutte ardente. Le monument national est situé au milieu de la place Medan Merdeka, Jakarta Central. Le 12 juillet 1997, la naissance de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai est étudiante et militante de l'éducation de la ville de Mingora, au district de Swat, à la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa. On la connaissait en tant que militante pour l'éducation et les droits des femmes dans la vallée de Swat, où les talibans interdisaient aux filles d'étudier à l'école. Au début de 2009, quand elle avait 11 ou 12 ans, Yousafzai a écrit en détail sur son blog sous un pseudonyme pour la BBC sur la vie qui était terrible sous le gouvernement taliban, leurs efforts pour contrôler la vallée et ses points de vue sur la promotion de l'éducation des filles. En 2014, lui et Kailash Satyarthi ont reçu le prix Nobel de la paix 2014 dans leur lutte contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour obtenir leur droit à l'éducation. La journée de Malala est l'anniversaire international fixé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui est célébré le 12 juillet, l'anniversaire de Malala Yousafzai, pour représenter les objectifs de l'éducation pour tous les enfants. Le 12 juillet 2006, on a commencé la guerre du Liban. Le conflit israélo-libanais de 2006 est une série d'actions militaires et d'affrontements en cours à Israël du Nord et au Liban, impliquant la branche armée du Hezbollah et les forces de défense israéliennes, ou Israeli Defense Force, ou IDF. Ce conflit a commencé le 12 juillet 2006 lorsque le Hezbollah a attaqué la ville de Shlomi à Israël du Nord avec des missiles Katyusha, puis les forces de Hezbollah ont infiltré le territoire israélien. Une Indonésienne qui travaillait comme travailleuse migrante, Siti Maimunah bin Muhtar Bisri, est tuée au Liban en raison d'un missile que Israël a lancé le 11 juillet. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Saat air lebih angka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, bukankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est « On a demandé au groupe de travail de généraliser les politiques de compétition ». Sukawijaya, membre de la commission LISE de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie, a demandé au groupe de travail de l'accélération des gestions de COVID-19 de généraliser les perceptions et les politiques avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur la poursuite des compétitions sportives nationales. Cité par Antara mardi à Jakarta, Sukawijaya a déclaré que le groupe de travail n'avait donné son feu vert qu'aux activités sportives individuelles et n'avait pas émis de recommandations pour les activités sportives impliquant des contacts physiques comme le football. Parallèlement, le ministère de la Jeunesse et des Sports a publié en juin un protocole sanitaire national pour les activités sportives dans lesquelles il réglemente trois étapes de la mise en œuvre du sport. Chaque étape est adaptée à l'évolution la plus récente du taux de propagation du virus corona dans la zone où l'activité aura lieu. Si on souhaite lancer la compétition, l'organisateur doit suivre une série de protocoles stricts et l'organiser sans public. À l'heure actuelle, la compétition qui se tiendra dans un proche avenir est le football, le basketball et plusieurs sports par un processus virtuel. Pendant ce temps, PSSI a officiellement décidé qu'on réaliserait la Ligue 1, 2 et 3 d'Indonésie 2020 d'octobre 2020 par la publication du décret concernant la poursuite de la compétition dans des conditions extraordinaires en 2020. La lettre a été signée par le président du PSSI, Mohamad Iriawan, le samedi 27 juin 2020 et distribuée au comité exécutif du PSSI, APT Liga Indonesia Baru, à l'Association des provinces indonésiennes du PSSI, à l'Association des entraîneurs indonésiens de football et à l'Association des footballeurs professionnels indonésiens. Il y a plusieurs considérations pour la concurrence. Le premier, à savoir la nécessité de créer une campagne à travers le football que l'Indonésie a su adapter et apprendre avec la situation de la nouvelle normalité grâce à la mise en œuvre de protocoles de santé. Deuxièmement, a déclaré Iriawan, la FIFA a imposé des sanctions à l'Indonésie en 2015 et 2016. Cela rend la compétition non exécutée et a un impact négatif sur le football national. De plus, les trois compétitions se sont déroulées dans l'intérêt de l'équipe nationale. Avec la Ligue, les joueurs peuvent continuer à affiner leur qualité. Selon Iriawan, la raison pour laquelle PSSI a organisé à nouveau la compétition au milieu d'une pandémie était pour faire tourner l'économie de la communauté. Mohamad Iriawan a affirmé que toutes les activités, y compris l'entraînement et les matchs de championnat pendant la pandémie, se dérouleront selon des protocoles de santé stricts conformément aux directives de la FIFA et du gouvernement indonésien.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu. Jebak aku Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Toujours avec nous à Voice of Indonesia dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous présentons la plage de Rongkang à Bangkalan, Madura. En plus d'être riche en tourisme culinaire, l'île de Madura possède également de beaux paysages naturels. L'un d'eux est la plage de Rongkang à Bangkalan, Madura. Le site touristique de Rongkang Bangkalan Madura est situé au village de Kuanyar de l'Ouest, à sous-district de Kuanyar, au district de Bangkalan Madura, à environ 35 km au sud de la ville de Bangkalan. La plage de Rongkang Bangkalan a un charme de beauté très intéressant à visiter. Chers auditeurs, la plage de Rongkang a beaucoup de beauté naturelle, comme des rochers à tout au long de la plage, les collines en terrasse qui sont à environ 20 à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, de beaux coraux et des arbres ombragés. Cette beauté naturelle vous fait vous sentir chez vous pour profiter longtemps du panorama sur la plage et de la brise fraîche. Là, il fait chaud pendant la journée. Mais à la nuit, vous ferez un paysage extraordinaire et exotique sur cette plage. La vue sur le coucher du soleil et le rayon de lumière des navires navigants dans les détroits de Madura et le reflet de la lumière de la ville de Surabaya sont très belles. Chers auditeurs, pour profiter de la beauté de la plage de Rongkang, vous pouvez voir les directions depuis Google Maps, lire les panneaux ou demander aux résidents. Pour ceux d'entre vous qui prennent les transports en commun, tels que les bus publics ou d'autres transports, vous pouvez prendre un bus public qui va vous emmener à votre destination avec des tarifs 5000 rupiah à 25000 rupiah. Pour les touristes venant de l'extérieur de l'île de Madura, vous pouvez choisir deux accès en utilisant un bateau pour traverser le port de Kamal ou en passant le pont de Suramadu. Pour arriver à la plage de Rongkang qui est à 12 km du port de Kamal, vous n'avez besoin que d'environ 30 minutes. Mais si vous traversez le pont de Suramadu, le trajet le plus court n'est que d'environ 15 minutes car la distance est inférieure à 5 km. Chers auditeurs, la plage de Rongkang vient du mot Nerongkang qui dans la langue locale signifie creux. Parce qu'avant, cette plage avait vécu des processus naturels. Une abrasion qui faisait que les roches et les coraux devenaient creux et formaient d'intéressants coraux creux sur les rivages. Alors maintenant, on connaît cette plage, la plage de Rongkang. chers auditeurs, si vous êtes à Madura ou Surabaya, visitez la plage exotique de Rongkang à Bangkalan, Madura, pour profiter de sa beauté.
Andaikan malam tiada pernah akan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah engkau. Saatmu
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers auditeurs, voici l'Indonésie en couleur. Vous allez écouter l'information sur les statuts de géoparc mondial de l'UNESCO, la caldeira de Toba et également un lieu de recherche. La caldeira de Toba, à Sumatra du Nord, a acquis le statut de géoparc mondial de l'UNESCO. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative espère que le géoparc de la caldeira de Toba pourra devenir une destination touristique et de recherche. Le vice-ministre des Destinations et des Infrastructures du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Hari Sungkari, lors d'une conférence de presse en ligne le vendredi 10 juillet 2020, a déclaré qu'il était conforme aux tendances du tourisme naturel qui serait plus souhaitable après la pandémie de COVID-19. La détermination de Toba en tant que géosite de l'UNESCO devient un point positif que le monde reconnaît. Hari Sungkari a ajouté que le tourisme naturel vendra de nombreuses aventures ainsi que des destinations pour les chercheurs. Néanmoins, Hari a déclaré qu'il y avait plusieurs choses à faire et qui étaient préoccupantes, l'une des principales était de maintenir les principes de propreté, de santé, de sécurité et d'environnement. Hari a déclaré que le ministère du Tourisme et de l'Économie créative avait compilé un guide sur le protocole à appliquer dans les destinations touristiques et était prêt à mener une socialisation liée aux directives. Pendant ce temps, le directeur général de l'Agence de tourisme du lac Toba, Ari Prasetyo, a déclaré que son parti avait accueilli favorablement le statut de parc mondial de l'UNESCO sur lequel compte la caldeira de Toba. Il continue de conserver ce statut car on le validera tous les 4 ans. On a établi la caldeira de Toba en tant que géoparc mondial de l'UNESCO lors de la 209e session du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris, France, mardi 2 juillet 2020. Le statut géoparc mondial de l'UNESCO sur lequel la caldeira de Toba compte s'ajoute à la liste du géoparc indonésien avec d'autres sites touristiques comme Batur, Ciletuh, le Mont Sewu et Rinjani. Voilà l'Indonésie en couleur.
kita hanya saling bercerita tentang ku dengannya, kau dengan dia. Mengapa Tuhan pertemukan kita yang tak mungkin menyatu? Aku yang telah terikat janji, engkau pun begitu. Ku coba lawan aturan yang ada, terus bersamamu. Semakin ku tenggelam dalam keadaan, semakin ku menginginkan lebih.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu. Tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku. Denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci. Kita tertawa dan menangis hingga
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Chers auditeurs, vous allez ensuite écouter une chanson de Discoria avec Dian Sastrowardoyo intitulée Serenata Jiwalara. La chanson créée par Lale Ilman Enino raconte de quelqu'un qui a de vos espoirs. Elle se sentait le cœur brisé parce que son petit ami venait de la quitter. Cependant, la chanson intitulée « Serenata Jiwalara » n'est pas rythmiquement mélodieuse, mais avec les nuances disco des années 80. Cette chanson illustre comment nous pouvons encore trouver de la lumière dans l'obscurité. « Serenata Jiwalara » est sortie en mars 2020. Puis, jusqu'à la mi-juin 2020, il y a environ 5 millions de personnes qui ont déjà écouté cette chanson sur le service de streaming musical. Alors, chers auditeurs, voici la chanson intitulée « Serenata Jiwalara » chantée par Discoria avec Dian Sastrowardoyo. Bonne écoute!
Cinta ini bukan untukmu. Aku
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir. Thank you.